Bonjour Michel Wieworka.
Bonjour.
Faut-il rappeler que vous êtes l'un des sociologues français les plus au fait de la question du racisme et des études postcoloniales? Vous êtes directeur d'études à l'école des hautes études de sciences sociales et voilà que vous apportez votre contribution à propos d'un supposé islamo-gauchisme dans les universités, tel que l'a laissé entendre la ministre de l'Enseignement supérieur, Frédérique Vidal, en février dernier. Elle a d'ailleurs commander un état des lieux au CNRS pour savoir ce qui se fait comme recherche en France sur le sujet, ce qui a suscité évidemment polémique et pétition. Et voilà donc que vous vous êtes auto-saisi de cette question à travers ce livre intitulé « Racisme, antisémitisme et antiracisme, apologie pour la recherche », un rapport paru aux éditions La Boîte à Pandore et que vous êtes d'ailleurs allé remettre pratiquement en main propre à la guérite, au ministère de l'Enseignement supérieur, alors que la ministre ne vous avait absolument rien demandé. D'ailleurs, est-ce que vous avez eu un retour de la ministre ?
Pas pour l'instant, mais je ne désespère pas.
Alors, il faudrait peut-être d'abord définir ce concept d'islamo-gauchisme tel que s'en inquiète la ministre. Sur quoi reposerait ce supposé vecteur d'influence dans l'enseignement supérieur en France? Ça repose sur quoi?
Alors, il faut d'abord dire ce qu'on entend par islamo-gauchisme. C'est une drôle de construction. Islamo, ça n'est pas islamismo, c'est islamo. C'est donc tout l'islam qui est en jeu, et donc tous les musulmans. C'est large. Et gauchisme, c'est pas toute la gauche, c'est le gauchisme. Mais ceux qui critiquent la gauche ne se privent pas de la traiter, à bien des égards, d'islamo-gauchiste. Et donc c'est une construction assez étrange, premièrement. Alors acceptons qu'elle nous dise quelque chose, hein, sur une sorte de rencontre qui existerait entre certains secteurs de la gauche et certaines dérives de l'islam. Acceptons ça. Je suis allé voir, moi, dans l'université, je suis ces questions depuis très longtemps. Je ne dis pas qu'il n'y a rien, parce que ce serait excessif.
Non, mais enfin, c'est très embryonnaire, dis-je.
Ça n'est pas grand-chose. Écoutez, jour après jour, malheureusement, on vit avec la hantise, et parfois, on vient de le voir, la réalité du terrorisme. Ce n'est pas des gens qui sont passés par l'université, hein, dont il est question en ce moment. Donc, je ne dis pas qu'il n'y a rien, mais il n'y a pas grand-chose. Mais il y a d'autres problèmes, et la ministre a tout amalgamé. Elle a fait des déclarations pour mettre un lien entre l'islamo-gauchisme qu'elle impute à l'université, en parlant de gangrène. C'est très ennuyeux, gangrène c'est une maladie. Vous voyez, on déplace le débat politique, on le naturalise. Donc, elle parle de gangrène, et elle tire un lien bizarre entre ce phénomène-là et l'invasion du Capitole, le 6 janvier 2021, au moment de l'arrivée au pouvoir de Biden. Enfin, tout ça n'est pas très sérieux. Donc, il y a de l'amalgame, et les mêmes qui dénoncent l'islamo-gauchisme l'installent, en quelque sorte, dans une sorte de nébuleuse où il y aurait aussi les études postcoloniales, les études décoloniales.
Les républicanistes, les décolonialistes, on va en parler dans un instant.
Voilà, donc tout est mélangé.
Mais Michel Wieworka, ce livre, vous le précisez bien, ce ne sont pas des recommandations, c'est une matière à réflexion. Est-ce qu'on réfléchit, est-ce qu'on prend encore le temps de réfléchir avant de juger? Vous citez d'ailleurs Marc Bloch, on juge jusqu'à perdre le goût d'expliquer. Donc l'humaine réalité n'est plus finalement qu'un tableau qui est noir ou qui est blanc, c'est-à-dire c'est une vision manichéenne et réductrice.
Et c'est une vision qui ignore ce qui se passe dans, appelons ça l'université, dans l'univers de la recherche en sciences sociales, où il se passe des choses intéressantes, contestables, mais qui méritent d'être examinées sérieusement plutôt que d'être balayées comme ça d'un revers de main.
Alors, un islamo-gauchisme embryonnaire dans les universités. En revanche, ce que vous constatez, au moins dans votre école, c'est une racialisation des revendications. La race, alors non pas comme, non pas au sens biologique, mais culturel, ça, oui.
Alors, la race, pendant des siècles, ça a été une idée scientifique. Il y existerait des races humaines, et on va mesurer le crâne, et on va regarder la couleur de la peau, etc. Et on va hiérarchiser les races. Et puis, depuis les années 70, il y a toute une façon de penser, en général, le social, et en particulier les questions de race, qui consiste à dire tout est construction sociale. Et donc, s'il s'agit de la race, ça n'est pas une réalité physique, ok, disent beaucoup de sociologues, c'est une construction sociale. C'est la société qui fabrique l'idée de race.
Mais dans les années 80, par exemple, on s'est demandé si le mot race n'était pas de trop dans la Constitution.
Bien sûr, parce qu'on commence justement à s'interroger et on arrive à ce moment de grande confusion, me semble-t-il, où on ne sait où c'est le même mot race qui est utilisé encore et très largement, y compris d'ailleurs, je le montre dans mon bouquin à propos de certains courants de l'anthropologie aux États-Unis. La race reste biologique pour eux, pour beaucoup d'entre eux. Et donc, on arrive à un moment où le même mot sert à désigner quelque chose qui serait scientifique et qui est extrêmement nocif, et qui est proprement raciste, et quelque chose qui serait sociologique, c'est le même mot. Donc ça va pas. Donc si vous voulez, on fabrique de la confusion, mais ça a un succès considérable dans certains milieux, limités mais réels.
Une racialisation des revendications qui se cumule en plus parfois aux origines sexuelles, genrées. C'est ce qu'on appelle l'intersectionnalité des revendications. Quelle forme elles prennent ces revendications intersectionnelles dans l'enseignement supérieur ?
Vous allez trop vite, si vous permettez.
Ah, alors, dites-moi.
Si vous permettez. Parce qu'avant d'être des revendications, c'est-à-dire qu'on passe à la contestation et aux politiques, c'est quand même un concept, un outil pour analyser le réel. Donc je dis un mot de l'outil, si vous voulez.
Parce que l'intersectionnalité, c'est ça ?
Le mot intersectionnalité, c'est un mot qui n'est pas inintéressant, donc il faut le prendre au sérieux. C'est l'idée suivante. Si vous cumulez les risques de discrimination, parce que vous êtes une femme, le genre, parce que vous êtes de couleur, la race, entre guillemets, je reviens pas sur ce que je viens de dire. La sexualité. Enfin, si vous cumulez les risques de discrimination, ce que vous allez subir, c'est pas simplement l'addition de difficultés. C'est quelque chose de plus. Ça fait système. Et donc, l'idée d'intersectionnalité, c'est l'idée que si on veut réfléchir aux discriminations, il faut pas mettre chaque discrimination dans une sorte de silo. Il faut les analyser dans leur ensemble, dans le système qu'elle constitue. Alors, j'en arrive à votre question. C'est intéressant comme idée, comme façon d'aborder le réel. Mais de là en faire un combat politique, alors
vous dites que c'est consternant.
On entend des choses assez consternantes. Mais ce n'est pas les chercheurs qui sont au cœur de ce combat politique. Il y en a, bien sûr. Mais ceux qui disent les choses les plus consternantes, ce sont des gens qui sont plutôt, comment dirais-je, autour et alentour, et pas
très loin. Les politiques.
Et des politiques, et des groupes.
C'est-à-dire que c'est un débat public et non plus un débat scientifique.
Alors voilà, le problème devient ça. C'est-à-dire que le débat, qui pourrait être un débat scientifique, est-ce que j'accepte ou pas d'utiliser ce concept, et qu'est-ce que ça donne quand je l'utilise, est-ce que mes résultats sont intéressants, sérieux, etc. Ça, c'est un. Mais quand ça passe au débat public, alors là, tout est simplifié. Tout est amalgamé, on ne sait pas très bien de quoi on parle.
Et c'est la raison que l'on tue, finalement.
Voilà, et l'on met à mal la raison, le souci d'être sérieux, de clarté, et le souci de comprendre ce que disent les autres, le souci d'échanger. Et c'est quelque chose de très grave qui existe dans l'université, bien sûr, mais qui est encore plus aigu du fait de la confusion du débat public et du débat scientifique, même si les deux se chevauchent en permanence.
À cela, il faut ajouter que quiconque ne penserait pas comme il faudrait serait vite accusé d'être du côté des mâles dominants blancs et donc disqualifié. C'est un commentaire et en même temps, vous voulez réagir là-dessus ?
Moi, je me suis fait traiter de mâle dominant blanc par des gens qui ont envahi mon séminaire un jour parce qu'ils voulaient que je signe une pétition disant que la ministre est raciste. Et j'ai évidemment refusé. Et la personne qui était la plus active dans cette vingtaine de personnes qui envahissaient mon séminaire, c'était une jeune femme bien blanche et suisse.
Alors, vous écrivez que dans les établissements d'enseignement supérieur, le débat est confisqué entre les républicanistes et les post-coloniaux. Vous pointez à la fois l'influence du printemps républicain et de l'observatoire du décolonialisme. Alors, il faut peut-être rappeler ce que sont ces deux mouvements. D'abord, le printemps républicain fondé en 2016. Le mot d'ordre, c'est la laïcité contre l'islam politique. Ça, c'est leur credo.
Alors, je voudrais pas être réducteur moi-même.
Malheureusement, on sera un peu obligé en quelques minutes.
Mais en gros.
Non, mais vous n'êtes pas réducteur dans votre livre, je vous rassure.
Merci beaucoup. Mais en tout cas, en gros, il existe en France un certain nombre d'intellectuels, de responsables politiques, de journalistes, enfin tout un ensemble de personnes, souvent très respectables, qui considèrent que la République est une et indivisible. Je dis au passage que le mot « une » n'est pas dans la Constitution, et qui font un combat comment dirais-je, que j'appelle parfois républicaniste, le mot est polémique bien sûr, mais un combat pour dire tout ce qui est affirmation d'une identité dans l'espace public est très dangereux. Et évidemment, c'est un combat qui vise avant tout l'islam.
Donc on est républicain ou on est démocrate, c'est un peu ce que disait Régis Debray ?
Alors ça relance, mais Régis Debray ça avait de l'allure. Il faut choisir, êtes-vous républicain ou êtes-vous démocrate ? C'était quand même deux termes élégants, si je peux dire. Là aujourd'hui, ça cogne, et vous avez vu que la ministre,
Marlène Schiappa, a annoncé la tenue prochaine d'État généraux de la laïcité.
Voilà, donc c'est ces courants-là, si vous voulez. Et donc, ce sont des courants qui mettent en avant une idée républicaine, j'ai envie de vous dire, pure et dure, qui ne s'accommode d'aucune réalité dans laquelle il y aurait des regroupements, des associations, etc., qui penseraient autrement.
Alors voilà. Ça, c'est pour le printemps républicain. Sur l'influence de l'Observatoire du décolonialisme, ce mouvement d'universitaires et d'intellectuels qui a été fondé il y a un ou deux ans, et qui voit des dérives dans l'enseignement supérieur, alors, en même temps qu'un dévoiement de la recherche.
Alors, si vous voulez, je voudrais pas non plus, là aussi, polémiquer de façon trop sommaire, mais on ne compte pas beaucoup de chercheurs qui travaillent sur ces questions dans cet observatoire. Bon. Premièrement.
C'est votre commentaire.
Deuxièmement, ça me semble moins important comme force politique que le printemps dont on vient de parler, mais c'est quand même la même façon de penser. Et ce sont des modes de pensée qui se prolongent assez vite, et là les choses deviennent très ennuyeuses, par une sorte de ce que certains ont appelé un néo-McCarthyisme. Vous savez, le McCarthyisme, c'est au sortir de la Seconde Guerre mondiale, le début de la guerre froide, et aux États-Unis, le sénateur McCarthy et d'autres qui pourchassent le communisme de façon terrifiante. Charlie Chaplin obligé de quitter les États-Unis. Et donc, un néo-McCarthyisme qui consiste à dire, s'il y a des gens qui pensent mal dans l'université, vraiment trop mal, faites remonter tout ça vers la ministre, vers le ministère, on va s'en occuper.
C'est mettre le débat sur la place publique aussi.
Alors, moi, ça ne me gêne pas qu'on mette un débat sur la place publique, ça ne me gêne pas qu'on fasse des enquêtes dans l'université, mais qu'on en appelle à quelque chose qui va vite tourner à la dénonciation, à la délation, et tout simplement
et
à la mise en cause.
Un climat de haine, presque. Enfin, c'est l'ère du soupçon. Haine, hein.
C'est l'ère du soupçon, et c'est la mise en cause des libertés, on appelle ça les libertés académiques, les libertés universitaires. Donc c'est des dérives que je crois très inquiétantes, ça c'est d'un côté. Mais je ne suis pas en train de vous dire que les études postcoloniales, c'est magnifique. C'est intéressant. Alors, vous m'avez posé la question. Il faut distinguer décolonial et postcolonial. C'est pas exactement la même chose.
On veut décoloniser les esprits. Lit-on souvent.
Alors, c'est encore, ça, c'est des
encore
façons.
Encore autre chose.
Oui, moi, je vous parle de la recherche, mais, alors, décoloniser les esprits, on pourrait peut-être dire au contraire, les coloniser davantage. C'est-à-dire, montrer que ce que nous pensons aujourd'hui a quelque chose à voir avec une histoire. Nous ne sommes pas dans un pays qui a été en dehors de l'histoire. Il y a eu un empire, il y a eu de la colonisation, il y a eu des guerres de décolonisation, il y a de l'immigration qui vient de pays très directement concernés. Tout ça pèse dans notre existence. Alors, je parle maintenant surtout des études postcoloniales. Ont d'intéressant, c'est qu'elles demandent à ce qu'on étudie ce genre de choses. Très important. Moi, je suis pour. Le problème, c'est qu'il y a une sorte de climat qui s'installe autour de la recherche, qui n'est pas forcément porté par des vrais chercheurs, mais une sorte de climat, et ce climat peut faire régner un certain fanatisme, de l'intransigeance, et tout simplement des bêtises.
Et vous regrettez aussi, Michel Vievorka, qu'il n'y ait plus de grand débat international dans la recherche.
Au début, c'était mon idée. Et quand j'ai regardé, réfléchi un peu plus, je me suis dit que c'est plus compliqué. Il y a une vie internationale très dense, mais elle est fragmentée comme la vie nationale. C'est-à-dire, si vous êtes dans des réseaux qui s'intéressent aux études postcoloniales, vous serez en relation avec des gens qui parlent de Global South, vous serez en relation avec tout un univers très riche, très dense.
Moi, mais chacun dans sa propre chapelle, voilà. Même au niveau international.
Exactement. Et puis, vous en aurez d'autres qui seront très différents. Moi, j'étais consterné parce que j'étais invité à l'association latino-américaine de sciences sociales. C'est un truc énorme qui est complètement dominé par ces courants. Je me suis aperçu que j'étais totalement marginal par rapport à des milliers de participants qui étaient de l'autre côté. Donc ça existe, il faut. Et ça ne dit pas que des choses inutiles. Donc il faut en prendre acte, mais il faut éviter, si vous voulez, des simplifications qui sont telles qu'il n'y aurait plus que d'un côté des gens qui dérapent complètement parce qu'ils sont dans un universalisme trop abstrait, et d'un autre côté, des gens qui déraperaient complètement, parce qu'ils deviendraient complètement relativistes et qui transformeraient même parfois leur antiracisme en racisme.
Alors pardon, parce que je vais revenir au printemps républicain. On parlait de Marlène Schiappa qui a été au moins un temps assez proche de ce mouvement. Elle a annoncé la tenue prochaine d'états généraux de la laïcité avec des personnalités, des syndicalistes, des associations. Et l'Élysée surveillerait ça de très près. Que craint l'Élysée avec de tels rassemblements autour de la laïcité, avec l'aval de Marlène Schiappa ?
Alors, je ne suis pas dans les couloirs de l'Élysée, malheureusement.
Enfin, à un moment donné, on vous a reproché d'ailleurs de faire partie du grand débat qui avait été organisé par l'Élysée
en
2019.
Je ne le regrette pas.
Ça vous a été reproché aussi.
Vous n'êtes pas dans les secrets politiques, mais vous êtes tout de même bien informé. Que redoute l'Élysée sur
Alors,
cette ligne ?
Alors, je ne sais pas exactement ce qu'il redoute, mais évidemment, c'est, comment dirais-je, faire de l'agitation sur un thème qui est avant tout un thème de droite dure et d'extrême droite. National, Rassemblement National. Et donc, peut-être que ce que craint l'Élysée, c'est de trop jouer, si je puis dire, le jeu de sa droite, premièrement, et donc de se couper d'une partie de sa gauche, parce qu'il y a quand même des gens de gauche qui ont rejoint le président. Et donc, je pense qu'il y a de ça. Et puis, que ce soit un fiasco, par exemple, Mme Schiappa annonce les syndicats en sont, et aussitôt, la CFDT fait un communiqué pour dire pas du tout. Pas du tout. Et puis, je trouve qu'il y a quelque chose dans cette affaire qui était quand même très inquiétant. C'est que si vous retirez le thème de l'islam, je ne dis pas l'islamisme, je dis l'islam. Si vous retirez l'islam, il n'y a plus de débat. Enfin, je veux dire, la question est inintéressante. Et donc, tout ça, ce sont des opérations sur le dos.
Où on focalise.
Sur l'islam. Alors, je pense que beaucoup d'intellectuels refuseront de participer à ce genre d'initiative. Jean Bobéro vient de publier, qui est quand même, à mon sens, un des meilleurs spécialistes de la question, peut-être même le meilleur en France, vient de publier, je crois que c'était dans les colonnes de l'Obs, un texte extrêmement dur pour la ministre, qu'il avait vu, et on lui a fait dire des choses qu'il n'avait pas dites. C'est peut-être aussi, la crainte de l'Élysée, c'est peut-être aussi que ça casse un peu l'unité de ceux que le président voudrait rassembler.
Alors, on va revenir à ce débat sur la racialisation des revendications. Et si l'antiracisme des uns devient le racisme des autres, écrivez-vous, alors où sont les bons et les mauvais antiracistes ? Avez-vous trouvé un élément de réponse, au moins, Michel Vivorca ?
Alors, j'essaie d'y voir clair, et j'essaie d'être le plus ouvert possible, le plus tolérant, le plus nuancé possible. Donc, quand des gens se réunissent entre discriminés pour la même raison, pour discuter...
Des réunions non mixtes.
Des réunions dites non mixtes. Si ces gens disent, on se réunit entre personnes qui subissent une discrimination de type racial, par exemple, mais on n'est absolument pas en guerre contre d'autres. Et on ne dit pas qu'il y a des races. Non, on dit simplement, je suis discriminé et je veux en parler entre nous. Je trouve ça très bien. Je trouve ça très bien, de la même façon que je trouve très bien que des alcooliques se réunissent entre eux pour essayer d'en sortir.
Et à l'époque, dans les années 70, les femmes du MLF.
Mais bien entendu, il y a eu des manifs interdites aux hommes, mais j'ai de très nombreux amis, IES, qui y participaient, et après on en discutait.
Mais je sens un mais derrière cette approbation.
Mais si les gens disent, je me réunis parce que j'appartiens à telle race, et je suis en conflit avec les autres races, à commencer par la race blanche, alors là je dis... Ça ne va pas du tout. Autrement dit, il faut essayer de voir
où est le curseur.
Et pour moi, le curseur, il est quand on rompt avec l'idée de débat, quand on rompt avec les valeurs universelles, quand on rompt avec l'idée qu'il s'agit non pas d'affirmer l'existence de ma race contre une autre supposée race, quand on est là-dedans, là c'est très dangereux.
Michel Vivorca, il nous reste quelques secondes, il n'y a dans ce rapport aucune recommandation, contrairement à ce qu'on pourrait attendre dans ce genre d'exercice. Aucune recommandation à la ministre de l'Enseignement supérieur, pourquoi ?
Bon, parce que je pense que le gouvernement auquel elle appartient ne s'intéresserait pas au genre de recommandations que je pourrais faire. Par contre, j'espère que dans le débat public, politique, plus large, le genre d'idées qu'il y a dans ce livre pourra avoir un certain écho.
Et le rapport commandé par la ministre au CNRS, il est déjà mort et enterré, mort-né ?
Alors, moi j'aimerais savoir, la ministre demande au directeur du CNRS un rapport, il lui répond qu'en gros il n'obéira pas. J'aimerais savoir ce qui se passe en Conseil des ministres si on évoque une telle affaire.
Merci Michel Vivorca. Je rappelle le titre de votre livre, Racisme, antisémitisme, antiracisme, apologie pour la recherche, donc rapport à Madame Frédérique Vidal, ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation. Vous viendrez nous dire éventuellement ce qu'elle en a pensé si elle fait un commentaire. Merci, et ça paraît, je le précise, à la boîte à Pandore. Merci d'être passé en parler ce matin sur France Inter.
Merci.